Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 3 concernant l'importance de la bénédiction. Aujourd'hui, nous commençons par la bénédiction du vieillard Siméon. Saint Luc évoque une autre belle, très belle histoire de bénédiction. Lorsque Marie et Joseph présentent leur enfant au temple, ils rencontrent le vieillard Siméon qui prend l'enfant Jésus dans ses bras pour le bénir. Louant Dieu, il prononce des paroles merveilleuses sur l'enfant. Ses yeux ont vu dans cet enfant le salut, la lumière qui éclaire les païens et la gloire d'Israël. Dire à quelqu'un « Quand je te vois, je vois le salut que Dieu réserve aux hommes », c'est bien cela la plus belle chose que l'on puisse lui dire. La véritable destinée de chacun est d'apporter le salut, de faire en sorte que les autres soient guéris et sauvés. N'a-t-il pas dit le Christ, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle du salut et guérissez les malades ». Avec Siméon, j'aimerais vous dire, chers amis à l'écoute, en toi, je vois la lumière. Tu es un ray de lumière en ce monde. Tu es gloire et magnificence. En toi éclate la beauté de Dieu. En toi rayonne en ce monde une part de l'amour de Dieu. Par toi, le monde devient plus lumineux et plus chaleureux. Ta présence me réchauffe le cœur. Peut-être penseras-tu que cela n'est pas vrai pour toi. Pourtant, les paroles de bénédiction prononcées par Siméon s'adressent aussi à toi, car tu es tout aussi béni que l'enfant de Marie. L'enfant béni par Siméon, une fois devenu adulte, a béni à son tour d'autres enfants. Les gens voyaient en Jésus de Nazareth quelqu'un de béni. Ils lui présentaient leurs enfants, et cela afin qu'il leur impose les mains et les bénisse. Notez Saint Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Donc, ils voulaient que leurs enfants participent de la bénédiction de cet homme. Ils ressentaient la proximité de Jésus comme étant bénéfique pour eux-mêmes comme pour leurs enfants. Ils percevaient qu'émanait de Jésus vraiment la bénédiction, l'acceptation et l'encouragement, ainsi que la vie et l'amour. Jésus prend les enfants dans ses bras et les bénit. Ses gestes sont empreints de tendresse. En les prenant dans ses bras, Jésus montre aux enfants qu'ils sont dans les bras de Dieu, qu'ils sont aimés de lui et protégés par sa présence salvatrice. Les enfants font l'expérience de la bénédiction en étant pris dans les bras. Elle est liée à l'amour et à la tendresse. Jésus impose les mains aux enfants et dans ce geste, il n'éprouve pas seulement l'afflux de l'Esprit Saint de Dieu, sa force de guérison, mais aussi sa protection. Dans tout ce que je fais, je sais que la main protectrice de Dieu est au-dessus de moi. L'imposition des mains c'est le geste de bénédiction, on peut dire, le plus intense. Par elle, l'amour de Dieu peut être éprouvé physiquement comme une marque de tendresse, si vous voulez, un flux qui me traverse. Jésus lit à ce geste une parole bienfaisante et réconfortante. Sa parole crée la relation et la communauté. Jésus offre aux enfants son amitié personnelle, mais il exprime aussi par leur bénédiction qu'ils ont part au royaume de Dieu, qu'ils sont protégés et qu'ils sont sauvés par Dieu. Beaucoup de parents ont pour habitude de bénir leurs enfants avant qu'ils s'endorment. Quand l'enfant est petit, il ressent dans cette bénédiction sécurité et protection. Lorsque une mère pose sa main sur la tête de son enfant et prie pour lui, l'enfant ressent ainsi que Dieu pose sa main bienveillante sur lui, qu'il est béni et aimé de lui. Et il en va de même lorsque un père pose sa main sur ses enfants qui quittent la maison. Une mère me racontait que ses enfants lui offraient leur front dans l'attente qu'elle les bénisse. Oh, il y a très, très longtemps de cela, vu mon grand âge. Alors, ils aspirent à la bénédiction, ces enfants-là, et cette tendre marque d'attention est pour eux très importante. Voyez-vous, dans cette expérience, les enfants peuvent entendre ceci. Tu es béni par Dieu. Je ne suis pas le seul à penser à toi. Mais Dieu pose avec tendresse sa main sur toi. Une fois ses enfants plus âgés, la mère hésitait à continuer. Et pourtant, quand elle voulait cesser, ses enfants lui demandèrent de continuer à les bénir. C'était un besoin pour eux. À quoi aspiraient ces jeunes hommes? Eh bien, sans les connaître, je peux tout de même supposer qu'ils voulaient ressentir concrètement qu'ils étaient bénis, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient accompagnés non seulement de l'amour de leur mère, mais aussi de la présence de Dieu où qu'ils aillent. Aussi, je voudrais encourager les parents à bénir leurs enfants. Mais dans l'imposition des mains, dans tes paroles de bénédiction, ton amour, ta bienveillance, et aie ainsi confiance dans le fait que ton enfant sera vraiment béni par Dieu. La bénédiction que tu donnes à ton enfant te libère de l'angoisse et du souci que tu te fais pour lui. On peut dire, tu le sais, qu'il est maintenant vraiment sous la bénédiction de Dieu, et tu sais que cette bénédiction est comme une main protectrice pour ton enfant. Mais la bénédiction, elle ne concerne pas seulement les parents et les enfants. Nous pouvons tous nous bénir les uns les autres. Ce geste bienveillant traduit ce que nous voulons dire à l'autre. Tu es bien tel que tu es. L'amour de Dieu te touche. Oh oui, elle te touche jusque dans tes contradictions. Tu appartiens maintenant à Dieu. Aucun empereur, aucun roi n'a prise sur toi. Tu es libre et tu es protégé de Dieu. Va donc ton chemin sous le regard aimant de Dieu qui te dit, tu es bienvenu en ce monde. Aie donc confiance en la vie. Je chemine maintenant à ton côté. Chers amis, être béni par Christ, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Pour l'Épître aux Éphésiens, l'action rédemptrice et libératrice de Dieu en Jésus-Christ est vraiment une bénédiction. Par cette image de la bénédiction, son auteur traduit ce que Dieu a fait pour nous par l'intermédiaire de Jésus. Cette épître débute par une louange. Elle dit « Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis aux cieux de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et c'est ainsi qu'il nous a choisis en lui, avant même la fondation du monde, pour être saints et immaculés devant lui dans l'amour. » Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Oui, voyez-vous, la bénédiction de Dieu correspond au fait qu'il nous a élus en Jésus-Christ. En Jésus, Dieu a dirigé son regard sur chacun de nous en particulier et nous a emplis de l'amour qu'il a donné à son Fils bien-aimé. Mais en Jésus, il nous a aussi appelés à être saints comme lui en sa présence. En Jésus-Christ, nous sommes déjà saints. Quand Jésus est en nous, par le Saint-Esprit, le péché n'a plus prise sur nous. En Christ, Dieu nous a bénis et nous a dit « Tu es bon, je t'ai créé comme quelqu'un de bon. » À mes yeux, tu es bon et saint. Le monde n'a aucune prise maintenant sur toi. Lorsque mon Fils est près de toi, seule la bonté émane de toi. L'apôtre Paul explique ce qu'est cette grande bénédiction qui, en Jésus-Christ, nous est donnée en partage. Nous avons reçu en Jésus, le rachat par son sang. Nous avons reçu la rémission des péchés, de toutes nos fautes, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. La rédemption, c'est donc notre libération, c'est le paiement de notre rançon. En Jésus, nous ne sommes plus sous l'emprise des puissances démoniaques qui pourraient nous nuire. Mais nous n'avons plus besoin de nous condamner, puisque en Jésus, Dieu a remis nos péchés. Il ne nous pèse plus et non plus à nous culpabiliser sans cesse. C'est fini. Nous pouvons décharger notre sac au dos, au pied de Jésus, vers sa croix. Béni en Christ, le péché ne compte plus pour nous. Nous n'avons plus à nous efforcer à l'éliminer. Nous sommes maintenant débarrassés de ce terrible poids. La bénédiction est plus forte que la malédiction. Cette malédiction que nous endossons souvent, nous-mêmes malheureusement, en nous laissant ronger par la culpabilité, affaiblissons ainsi notre force de vie. Je pense à une chère amie qui parfois se culpabilise pour des choses de bien, bien longtemps que le Seigneur lui a totalement pardonné il y a aussi longtemps. Donc, c'est l'ennemi qui veut lui rappeler certaines choses désagréables. Voyez-vous, l'Épître aux Éphésiens accorde aussi à la bénédiction en Jésus-Christ de nous faire connaître le mystère de sa volonté. Elle explique ainsi que par sa grâce qu'il a fait abonder pour nous en toute sagesse et prudence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser dans la plénitude des temps et ramener ainsi toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres, est-il dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 8 à 10. Voyez-vous, chers amis, en Jésus, Dieu nous a offert une part de sa sagesse. Nous avons atteint la gnosis à laquelle aspiraient tant les hommes à cette époque. Gnosis, cela veut dire connaissance, illumination et savoir authentique. En Jésus, nous avons part au savoir. Nous pouvons voir au-delà des apparences. Nous reconnaissons notre être véritable qui consiste en ce que Jésus réunifie tout ce qui est séparé en nous, le terrestre et le céleste, la faiblesse et la force, l'obscurité et la lumière, notre fragilité et l'immortalité divine. Le mystère de sa volonté est donc le Christ en nous. C'est ainsi que l'Épître aux Colossiens l'évoque. À eux, Dieu a daigné faire connaître quelle est la richesse de gloire de ce mystérieux parmi les nations. Je veux dire, de ce mystère extraordinaire par les nations. Voyez-vous, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est écrit, notez Colossiens chapitre 1, verset 27. Ce que on peut traduire aussi de cette façon-là. Christ parmi vous et en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est en cela que consiste la bénédiction la plus profonde que Dieu nous a donnée en Christ. Le Christ lui-même est en nous comme celui qui réunifie ce qui est séparé, clivé, comme l'espérance de gloire. Il atteste ainsi que nous nous rapprochons de notre forme glorieuse, originelle, que la gloire de Dieu rayonne maintenant en nous. Chers amis, médite le début de l'Épître aux Éphésiens et laisse-toi imprégner par ces paroles. Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux, tout cela dans le Christ. Et c'est ainsi qu'il nous a choisis en lui, dès avant même la fondation du monde, pour être saints et irréprochables en sa présence. Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Dans cette méditation, plutôt que réfléchir sur ces paroles, alors laisse ton cœur les recevoir dans la foi. C'est la vérité, c'est la réalité la plus authentique. Je suis béni, je suis l'élu de Dieu, je suis aimé sans condition. Sous la bénédiction de Dieu, je suis saint. C'est aussi simple que ça. La puissance de la croix, elle s'inscrit maintenant en toi. En allemand, segnen veut dire bénir, et cela vient de deux mots latins, signare et secare. Le premier signifie désigné, signum, et le signe. C'est le mot par lequel l'Église catholique nomme le signe de la croix. Le second veut dire coupé. Déjà au premier siècle, les chrétiens se désignaient par le signe de la croix ou le symbole du poisson lors des persécutions terribles. Eh bien, les deux signes étaient utilisés. Certains allaient même jusqu'à se tatouer soit une croix ou un poisson sur le front. Aujourd'hui, certains jeunes se font des tatouages très dangereux, ce qui n'est pas bon pour leur âme, voire même dangereux. Voyez-vous, pour les premiers chrétiens, eh bien, la croix était tout simplement un signe de protection contre le mal, un signe que l'amour de Dieu métamorphosait tout en eux. La croix n'était pas tellement le symbole des souffrances du Christ, elle était plutôt pour eux ce que en dit l'évangile de Saint Jean. C'était l'accomplissement de l'amour. La croix est le signe que Jésus nous a aimés totalement et entièrement. Elle est le signe de toutes les contradictions que nous portons en nous et dont nous souffrons. Et parfois, nous souffrons injustement. C'est vrai. Je fais l'expérience de la bénédiction qui m'est donnée dans la création, dans ma nature d'homme et dans la rédemption en Jésus-Christ. Je ressens ainsi que j'ai part à la vie et à l'amour du Dieu trinitaire. Comme Dieu est trinitaire, il existe en moi trois domaines que Dieu voudrait investir, l'esprit, l'âme et le corps. Je ressens Dieu comme étant le Père qui m'a créé et qui m'a donné un esprit créatif afin que je participe moi-même à la création. Je ressens le Fils comme étant celui qui est venu du ciel et qui s'est comme le montre l'épisode du lavement des pieds, rappelez-vous. Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. Dans l'évangile de Jean, il était abaissé jusqu'à la poussière. Tout cela pour me guérir là où je suis le plus fragile. Jésus-Christ vient jusqu'au plus profond de mon humanité, où se mêlent pulsions et désirs. Par là seulement, le côté pulsionnel peut être métamorphosé. Et ainsi, je ressens vraiment que le Seigneur est avec moi, et il est en moi par son Esprit Saint. Je voudrais terminer maintenant cette très courte étude. L'Esprit Saint est un peu comme celui qui réunifie ce qui est séparé et ce qui est déchiré en moi, qui relie le cœur à l'action, l'inconscient au conscient, le masculin au féminin, la force à la faiblesse, la réussite à l'échec. L'Esprit Saint me donne donc la force de m'accepter tout entier, tel que je suis, sans rien rejeter. Nous allons prier maintenant ensemble, et après, j'essayerai de vous mettre une chanson, le psaume 23, que j'avais chanté avec mon épouse en 1962. En ce temps-là, il n'y avait ni CD, ni cassette, c'était seulement des appareils à bande tels que le Revox, UR ou un appareil de Kudelski pour les plus riches. Donc, voici d'abord la prière. Père Céleste, je te le demande, permets que je te connaisse, que je t'aime et que je trouve ma joie en toi. Et si en cette vie je ne peux arriver à la perfection, permets que je fasse du moins chaque jour des progrès jusqu'à ce que j'atteigne ce qu'il faut pour te satisfaire. Qu'ici grandisse la connaissance que j'ai de toi, qu'elle puisse atteindre son achèvement. Qu'ici grandisse mon amour pour toi, qu'il puisse atteindre la perfection, qu'ainsi ma joie puisse être grande ici-bas, toute en attente et pleine d'espérance, qu'elle puisse trouver son achèvement en toi. Père Céleste, par ton Fils, tu nous ordonnes et surtout tu nous conseilles de te prier et tu promets que nous atteindrons la joie parfaite. Père, je te demande ce que tu conseilles par ton glorieux conseiller, afin que j'obtienne ce que tu promets par ta vérité, que ma joie soit parfaite. Jusqu'alors, mon intelligence doit réfléchir à la joie d'être avec toi, ma langue doit en parler, mon cœur doit l'aimer, ma bouche doit l'exprimer, mon âme la désirer et mon corps y aspirer. Tout mon être le souhaite, jusqu'à ce que j'entre dans la joie de mon Seigneur, qui est le Dieu de la Trinité. À lui, en lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est une chose qui a eu lieu très, très, très longtemps, et donc, évidemment, c'est pas du tout la qualité actuelle, on ne peut pas comparer. Mais j'espère que vous pourrez tout de même comprendre les paroles que j'ai chantées avec mon épouse en ce temps-là, il y a fort longtemps.
C'est la même chanson que vous avez déjà entendue, sauf que on essayera de l'appliquer un peu dans les des montagnes suisse-alémaniques.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je me laisse diriger par sa divine houlette, puis il me fait goûter la paix dans de fertiles prés. Il me conduit au bord des ruisseaux tranquilles, à l'ombre de ses ailes, je suis paisible, et sous sa garde j'ai la paix. C'est dans ses verts pâturages qu'il fait bon se reposer, en un ton le doux langage du divin. Et bon berger, puis il me fait goûter la paix dans de fertiles prés. Il me conduit au bord des ruisseaux tranquilles, à l'ombre de tes ailes, je suis paisible, et sous sa garde j'ai la paix. Oh, yo, la 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 la
Oh,